Bonjour et bienvenue à cette session Windows 2012 R2 pour les administrateurs Linux. Je me présente, je m'appelle Cédric Gauthier, je suis formateur certifié au sein de la société Global Knowledge France. Au sein de cette société, je dispense des cours Microsoft sur Windows, de Windows 2000 à 2012 R2, sur la gamme System Center, ancienne génération, nouvelle génération, sur la gestion du cloud privé avec les technologies System Center 2012 en particulier, et sur toutes les technologies de virtualisation de Microsoft, virtualisation de serveurs, virtualisation de présentation, virtualisation d'applications et virtualisation du poste de travail. Pour aller plus loin après ces présentations, vous avez la possibilité de suivre un cours en fait ici qui va être mis en place sur la gestion d'un environnement Microsoft pour les administrateurs Linux. Un cours dédié réellement en fait à ce type de personnes. Au niveau de notre planning, en fait, on a déjà commencé par voir la partie licensing. Licensing, c'est bien de vouloir mettre du Microsoft, mais combien ça va me coûter ? Alors, dans le combien ça va me coûter, hein, c'est vrai que le licensing est important, mais également dans le combien ça va me coûter, c'est quel va être le coût après coût d'administration et le coût de formation des personnes. C'est un coût supplémentaire dédié par, disons, au-dessus du licensing. J'ai choisi mon mode de licence. Après coup, quel est le type d'installation que je mets en place entre le mode core et le mode graphique, le mode interface minimale également. Comment vais-je administrer mon serveur? Comment vais-je pouvoir également automatiser l'administration de mon serveur grâce à du PowerShell par exemple? Je sais que je veux administrer avec un gestionnaire de serveur, je vais automatiser avec différents produits. J'ai des OS à installer, plusieurs, X-Millet Machine en fait. Quelle méthode de déploiement va-t-on utiliser? Quel fichier va-t-on utiliser? Fichier WIM, fichier VHD. Est-ce que j'utilise des technologies intégrées type WDS par exemple? Est-ce que je fais appel à du Configuration Manager, à du MDT? J'ai déployé mes serveurs de fichiers, mes serveurs Hyper-V ont besoin éventuellement pour travailler de stockage. Que va nous apporter Windows 2012, 2012 R2 au niveau de la gestion du stockage? Alors, dans la gestion du stockage, on a un premier apport fourni par Windows 2012, 2012 R2, et on aura un deuxième apport qui nous sera fourni par l'outil System Center Virtual Machine Manager, qui permettra d'aller plus loin en fait sur les bêtes de stockage. Mais ici, on a déjà une première partie dans notre gestion de stockage. Au niveau de la gestion du stockage dans Windows 2012, 2012 R2, quelles sont les nouveautés que l'on va rencontrer dans l'infrastructure? Une des premières nouveautés ici, c'est ce qu'on appelle l'espace de stockage. L'espace de stockage, en anglais, c'est le storage space. À quoi va correspondre cette structure? Deuxième composant qui va être apporté ici, c'est la déduplication de données. Faire en sorte ici d'avoir un gain d'espace, en fait, rapidement, mais également en étant sécurisé derrière. Autre élément au niveau de l'accès aux bêtes de stockage, c'est dans Windows 2012, 2012 R2, nous avons un support de l'ODX, de l'Offload Data Transfer. Faire en sorte ici d'optimiser les temps de copie en fait entre les bêtes de stockage. Dernier composant ici que nous avons au niveau de la gestion du stockage, c'est dans Windows 2012, 2012 R2, Microsoft nous permet automatiquement, de façon officielle, d'avoir des cibles ISSI gérées par un serveur en fait intégré, sans être obligé de passer par des technologies tierces ici. Le premier élément, les storage space, les espaces de stockage. Schématiquement, c'est quoi l'espace de stockage? L'espace de stockage, vous avez dans votre infrastructure connecté en physique à votre serveur ou sur des bêtes de stockage, après coup, qui va être assimilé à du physique sur votre serveur, toute une série de batteries disques. Toute cette série de batteries disques, le problème, c'est que ces batteries peuvent être gérées par différents équipements. Vous pouvez avoir du local, du vrai local, du local émulé par le ISS et ainsi de suite. Le problème, c'est que toutes ces batteries vont être gérées de façon différente en fonction du matériel qui gère cet équipement. Grâce au storage space, on va avoir la possibilité de dire, attendez, ces différentes batteries de disque dur que j'ai en stock, qui sont distantes ou locales, je vais faire en sorte, en fait, de toutes les faire gérer par mon environnement Windows. C'est-à-dire que c'est moi, Windows, qui vais faire le découpage de mes disques durs, qui vais associer mes disques durs, en fait, à une infrastructure, et après coup, qui vais faire le découpage en disque accessible par les différents systèmes. Pour cette gestion d'espace de stockage, on a différentes terminologies ici. On a ce qu'on appelle le primordial. Primordial, en fait, ce sont tout simplement les disques que voit un serveur. Le disque que voit un serveur, ça peut être des disques SAS, SATA, USB, connectés à distance, mais avec pour moi un chaînon local au niveau composant, disque mécanique ou disque éventuellement SSD. C'est le primordial, en fait, sont les disques physiques qui n'ont pas encore été exploités. Exploités où ? Exploités dans ce qu'on appelle un pool de stockage. Le pool de stockage, c'est, je vais dire, par exemple, parmi mes 50 disques durs, je vais avoir 5 premiers disques durs qui vont être pour un premier pool de stockage. 5 autres disques durs qui vont être sur un deuxième pool de stockage. La gestion des pools de stockage va me permettre, après coup, de faire un découpage logique en interne. Ici. Plus je mets de disques dans un pool de stockage, plus j'aurai des possibilités de tolérance aux pannes, comme du miroir ou comme du système avec parité, tout simplement. Après, on aura des évolutions. L'intérêt des storage space, des espaces de stockage, c'est quoi ? Ici, c'est de mettre en place en fait de la résilience et de l'intégrité sur du disque dur standard. Disque dur standard qui ne bénéficie pas en fait dans la baie de stockage de technologie de tolérance aux pannes. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que les espaces de stockage sont incompatibles avec les technologies de gestion de stockage en physique. C'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est si je fais des espaces de stockage, il faut désactiver sur les baies de stockage les technologies RAID, par exemple. C'est moi, espace de stockage, qui vais être amené à gérer ça, tout simplement. Ici. Dans les espaces de stockage, en fait, dans les storage space, nous aurons également une disponibilité en continu, une intégration avec le CSV. Disponibilité en continu, c'est puisque dans un espace de stockage, je vais pouvoir mettre 3, 4, 5, 6, 7 disques durs. Quand je vais créer un disque virtuel, je pourrais dire ce disque virtuel utilise une technologie de tolérance aux pannes. Donc on aura une disponibilité en logiciel. D'accord ? Intégration avec le CSV. Le CSV, c'est le cluster shared volume. Le cluster shared volume, c'est faire en sorte que quand j'ai une baie de stockage dans mon cluster, qu'il n'y ait pas qu'un seul nœud qui puisse accéder à la baie de stockage, mais que tous les nœuds puissent accéder en simultané. Ici. Dans mes espaces de stockage, on pourra utiliser de façon optimale le stockage. Alors, utiliser de façon optimale le stockage, on pourra éventuellement faire, pourquoi pas, de la surallocation de stockage. Alors ici, c'est à faire bien attention, puisque si, par exemple, j'ai 5 disques durs qui me fournissent chacun 200 gigas, donc ça me fait 1 téra de disques disponibles, je peux très bien, au final, faire de l'allocation, en fait, de 15 téra. Le seul problème, c'est qu'au bout d'un moment, il va se poser un petit problème. Donc j'ai intérêt éventuellement, dans l'usage optimal, à bien faire une supervision de ce que je fais. Également ici, dans l'usage de mon stockage, on aura la possibilité de faire du tiering de stockage. Faire en sorte tout simplement que j'ai un pool de stockage qui est équipé de disques mécaniques et de disques en SSD. Je vais pouvoir faire en sorte de dire, attention, les données très couramment utilisées, tu vas les mettre en fait sur la partie SSD. Et faire en sorte en fait d'optimiser les temps de lecture au niveau système en particulier. Également dans l'espace de stockage, on pourra faire de l'isolation de données et de la mutualisation d'informations, tout simplement. Les espaces de stockage, en fait, comment ça fonctionne ? Les espaces de stockage, c'est directement depuis mon gestionnaire de serveur. Eux se gèrent depuis le gestionnaire de serveur. Dans la partie gestion du stockage, gestion des partages et du stockage, ici, on va trouver en fait une notion qui s'appelle le pool de stockage. Dans le pool de stockage, ici, on trouve deux éléments. Hop, on va trouver primordial. Primordial, ce sont les disques qui ne sont pas encore alloués. Et juste en dessous, j'ai un pool de stockage qui est déjà alloué au sein du système. Donc, je vais créer ici mes informations. Je vais dire, je vais créer un premier pool de stockage qui va utiliser ces trois premiers disques durs-là. Sachant que quand je crée un pool de stockage, nativement, les disques durs disparaissent du gestionnaire de disques durs de ma machine. Après coup, si je veux qu'ils réapparaissent, je devrais créer des disques virtuels. Toute la mise en place de la gestion de tolérance aux pannes, tout ce qui est mis en place du tiering, ne se fera que à la création d'un disque virtuel. Ici. Donc, les disques physiques ne sont pas exploitables en tant que tels, je dois créer un disque virtuel. Toutes les gestions sont activées après coup, ce que l'on verra dans la démo tout à l'heure. Si je veux créer des disques, en fait ici, j'ai un pool de stockage qui est créé. Depuis ce pool de stockage, je vais pouvoir dire je veux créer un disque virtuel. Ce disque virtuel, ici, j'ai les éléments en fait, de mon disque. J'ai une notion ici, création de niveau de stockage sur le disque virtuel. Niveau de stockage, c'est du tiering, tout simplement. Alors pour faire du tiering, encore faut-il avoir en fait dans vos disques durs, les deux types de disques durs, des disques durs mécaniques, normaux, et des disques durs de type SSD. Alors, il est possible, hein, si le système ne les trouve pas, ne détecte pas, il est possible de les activer, pourquoi pas. Bah, si je veux faire une simulation au sein d'une machine virtuelle, on peut, au sein d'une machine virtuelle, dire « Attention, ce disque ici sera un équivalent SSD. » Et ce qui me permettra après coup, en fait, de faire du tiering. Ce disque ici, virtuel que je vais créer, on me propose de la disponibilité. Disponibilité en mode simple. C'est-à-dire qu'ici, on écrit en fait en simultané sur tous les disques durs avec des bandes de 256 kg. Disponibilité en miroir, disponibilité avec parité. Bah, ici, tout dépend du nombre de disques durs. La disponibilité en parité ici, sachant que le système en fait veut gérer la parité sur deux disques durs, la parité impose d'avoir au moins 5 disques durs dans le pool de stockage. Je crée une disposition en fait ici qui est une gestion en fait de la tolérance aux pannes en particulier. Puis juste après en fait j'ai le type d'approvisionnement. Ben, le type d'approvisionnement c'est le disque dur que vous allez générer. Puisqu'on va générer un disque dur de type VHDX plutôt. Ce disque dur sera un disque dur fin ou un disque d'ailleurs à taille fixe. Ben, si c'est un disque dur fin, par exemple quand je veux dire je veux créer un disque de 200 gigas sur le pool de 1 Tera, physiquement, le disque ne fera que 2 mégas, par exemple. Puis après, il grossira en fonction des données. Attention, dans ce cas-là, nous faisons de la surallocation, éventuellement. Disque dur fixe, bah, ça veut dire que si je dis je veux 200 gigas, en fait, on va créer un disque VHDX de 200 gigas sur le Tera disponible. Si je fais du niveau de stockage, du tiering, je suis obligatoirement sur un disque dur en taille fixe, et non pas un disque dur fin. Quand je crée mon disque dur virtuel, quelle sera sa taille de disque dur virtuel? Et j'ai la création. Créer un disque dur virtuel, c'est comme si schématiquement, hein, vous branchez en fait un disque dur USB sur une machine. Ce disque dur, après coup, il faut l'initialiser, il faut le partitionner pour qu'il soit exploitable. Ici. Donc ici, hein, c'est la première partie, c'est je vais pouvoir gérer en fait en un seul tenant, depuis un seul point, toutes mes baies de stockage qui vont travailler. À ces espaces de stockage, quand je vais créer une partition, quand je vais découper mon disque dur sur un disque dur local, quand je vais travailler également, j'ai la possibilité d'activer en fait une nouvelle technologie au sein de Windows 2012 qui s'appelle la déduplication de données. La déduplication de données, c'est quoi? Bah, le but du jeu, c'est de faire en sorte que toutes les données en fait dupliquées soient automatiquement supprimées. Bah, schématiquement, hein, vous avez un serveur en fait avec toutes vos sources d'installation, avec des VHD en fait, des modèles de machines virtuelles, des modèles de déploiement, des fichiers WIM. Bah, ces fichiers prennent de la place. J'ai 3 VHD de 8 Tera, bah, de 8 Go plutôt. J'ai 24 Go en fait de prise sur mon disque dur. Grâce à la déduplication de données, bah, cette déduplication, j'ai 3 VHD qui ont les mêmes fichiers puisqu'il y a un OS à l'intérieur. Grâce à la déduplication, physiquement, je n'aurai l'espace utilisé que d'un seul des 3 fichiers. C'est-à-dire qu'on va avoir un gain en déduplication. Sachant que cette déduplication, qui identifie et supprime les données dupliquées, c'est sans compromettre l'intégrité des données. C'est-à-dire qu'ici, je ne vais pas perdre les données en fait, qui auraient été mises dans mon système. La suppression des données, en fait, la suppression des données dupliquées va me permettre de stocker plus de données sur moins d'espace. Va me permettre également... Puisqu'on va supprimer les données dupliquées, ces données que je gère en général, je les sauvegarde. Si j'ai un outil de sauvegarde qui est compatible avec la duplication de données, bah ici, le temps de ma sauvegarde, les données sauvegardées seront moins grosses. Donc j'aurai un temps de sauvegarde qui sera meilleur avec des duplications que sans des duplications. Ici. Ce qu'il faut savoir, c'est que la duplication n'est pas effectuée en temps réel. La duplication est faite suivant les tâches planifiées. Après stockage des données. C'est-à-dire qu'ici, on peut se trouver à un instant T, on met les 3 fameux VHD sur nos disques durs qui représentent 24 gigas, il y a réellement 24 gigas de prix en compte. Tout de suite, on a toujours les 24 gigas utilisés, et demain, quand on regarde, en fait, on passe de 24 à 8 gigas, par exemple, ou voire à moins. Cette déduplication de données, ici, requiert le système NTFS. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de duplication si on n'est pas sur un système NTFS. Un système RIFS, ne supporte pas la déduplication de données. Le cluster et le stockage partagé, en fait, supportent. Le stockage partagé, c'est la technologie CSV. Supporte, en fait, la déduplication de données. La déduplication de données est supportée officiellement pour deux technologies. La déduplication de données est supportée dans le cadre en fait de serveurs de fichiers. Serveur de fichiers, serveur de librairie, et ainsi de suite. La déduplication de données est également supportée dans le cadre des machines virtuelles pour du VDI. Machines virtuelles pour du VDI, sur stockage distant. La déduplication de machines en fait virtuelles VDI en stockage local n'est pas supportée. Donc si vous perdez les machines, c'est pour vous, tout simplement. En mettant en place de la déduplication de données, nous avons des gains de déduplication qui sont très importants. Les meilleurs gains en fait de déduplication que nous avons ici, c'est surtout sur les VHD des OS, sur des librairies, bah, par exemple sur le serveur VMM, Virtual Machine Manager, à un endroit nous avons un espace de stockage dans lequel on stocke tous les ISO, tous les fichiers VHD qui vont être utilisés pour déployer les machines virtuelles. Bah, sur ces composants, nous avons un très grand gain au niveau en fait, de la déduplication de données. Sur les partages de déploiement logiciel, on a un gain également, puisqu'on peut avoir plusieurs fois les mêmes fichiers. Sur des partages de fichiers, le gain est moindre, parce qu'en fait ici, il y a moins de données qui sont équivalentes, tout simplement. Cette déduplication de données s'active après coup, on la reverra après. Quand j'active la déduplication de données ici, hein, je vais dire sur une partition, j'active ma déduplication de données. Cette déduplication est soit désactivée, soit c'est un serveur de fichiers à usage général, soit c'est un serveur VDI. Le choix en fait du type de déduplication de données va avoir une incidence sur des exclusions. C'est-à-dire qu'on a certains fichiers qui seront exclus en fait si on fait une déduplication de fichiers, alors qu'ils ne seront pas exclus si on fait du VDI. Pourquoi pas? On peut avoir des gains de déduplication qui sont très importants. Ici, hein, par exemple, on a un gain de déduplication sur un stockage de machines virtuelles en fait, de 64%, donc 327 gigas. Sur des sources ici, en fait, il est très petit parce qu'on a dû racheter des données en fait, et la duplication n'a pas dû avoir lieu. D'accord ? Il faut savoir que quand la duplication n'a pas lieu en temps réel, il se peut que le fait de racheter des fichiers, on n'ait pas une déduplication immédiate. Le fait de supprimer des fichiers, on ne regagne pas de la place non plus. Il faut qu'il y ait un nettoyage de données en fait, qui se passe, qui se fait toujours en arrière-plan. Dans la gestion de mon stockage, ici, on a nativement dans Windows 2012, Windows 2012 R2, une grosse nouveauté, en fait, c'est nativement désormais, nous avons un serveur cible ISCSI. C'est-à-dire que notre serveur en fait, peut faire office de cible ISCSI pour nos clients. L'ISCSI, c'est quoi ? Bah, c'est un protocole de transport qui va faire transiter des commandes SCSI au travers du réseau IP. Donc, tout simplement, on va faire un SAN dans le système. On va pouvoir accéder à ces périphériques SCSI en fait, depuis n'importe quel client. Alors, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, en fait, le serveur Windows ne supporte que des stockages par bloc au niveau en fait, des cibles SCSI générées. Les cibles SCSI, quand sur une machine, on va se connecter à une cible SCSI, bah, la machine va voir en fait le stockage comme un stockage local. C'est-à-dire que ça va me permettre de travailler directement et d'écrire dessus, même si la donnée est distante, même si la base de stockage est distante. Le cible SCSI est un rôle Windows 2012 dans le service de fichiers. Ici, on va le voir après. On peut l'ajouter au niveau du système de cluster. Si je veux gérer l'accès à mon ISCSI avec différents moyens canaux de communication, si je veux gérer la redondance de l'accès, dans ce cas-là, je vais utiliser le Multipass IO, le MPIO, ici. Donc, on a un autre système ISCSI au sein de notre serveur, sachant que le moyen de connexion au système ISCSI, on va s'appuyer sur l'initiateur ISCSI. L'initiateur ISCSI qui est intégré dans les clients Windows à partir de Vista. Client Windows à partir de Vista et sur les serveurs Windows. Donc, on va pouvoir se connecter à cette cible ISCSI. Mon serveur cible SCSI, en fait, c'est lui qui va me permettre de présenter à mes clients des LAN SCSI. Cette présentation ici, que je vais faire, en fait, je vais présenter mes LAN aux machines qui m'intéressent. C'est-à-dire que n'importe qui ne pourra pas accéder. L'accès au cible SCSI, au serveur cible SCSI Microsoft, ne peut se faire que si j'ai mis en place de la sécurité. Nativement, je crée une cible, je dis personne ne peut accéder, Je ne mets pas de moyens de sécurité. Je ne mets rien au niveau sécurité. Par défaut, ces personnes se connectent. Les cibles SSI vont s'appuyer sur des fichiers au format VHDX. Donc, comme c'est un fichier de machine virtuelle, on pourra un VHDX de taille fixe, un VHDX de taille dynamique, ou éventuellement un VHDX de différenciation. Un VHDX qui s'appuie sur un autre VHDX. On pourra également, quand on créera en fait le VHDX au niveau système, on pourra dire je nettoie le disque durant l'allocation. Nettoyer le disque durant l'allocation, c'est je vais le provisionner en taille fixe et je vais faire en sorte que si je prends un fichier déjà existant, tout ce qui était dedans en fait disparaisse. Puisque j'utilise le format VHDX, le nouveau format en fait fourni par Windows 2012, ce fichier VHDX aura une taille maximale de 64 teraoctets. Ici. Un VHDX, c'est un fichier en fait de machine virtuelle, on va dire tout simplement. Il peut être étendu ou réduit en ligne. C'est-à-dire que tu veux passer d'un fichier de 2 Tera à un fichier de 4 Tera, il n'y a aucun problème. Mon serveur cible ISCSI ici inclut le provider SMIS, le provider SMIS en fait de gestion standardisée. Ce qui permet surtout en fait ici hein, d'avoir une découverte de mon portail, donc de mon serveur cible ISCSI, et d'avoir une gestion de mon stockage normalisée, tout simplement. Donc ici, pour créer une cible ISCSI, hein, on va depuis le serveur sur lequel on a ajouté en fait le serveur cible, on va demander à créer en fait un serveur ISCSI. De quelle taille? Ce serveur, on va donner qui y aura accès. L'accès, en fait, on pourra spécifier soit un IQN, soit un nom d'ordinateur, soit une adresse IP. On pourra spécifier différents composants. Une fois déjà créé, je verrai sur mon serveur en fait toutes les cibles ISCSI qui existent. Ces cibles ISCSI, quels sont les LUN en fait qui y sont associés. Et mes clients pourront s'y connecter. Donc on va revoir tout ça juste après en fait sur une démo. Ici. Autre nouveauté au niveau de mon stockage. Alors c'est une nouveauté en fait qui n'est pas dédiée stockage local ici, mais qui va être plutôt dédiée en fait à l'accès à mes bêtes de stockage. J'ai un de mes serveurs en fait, où j'ai mes serveurs qui accèdent à différentes baies de stockage. J'ai besoin de copier une donnée d'une baie à une autre. Le modèle traditionnel de copie de données en fait que nous avons, c'est le serveur fait une demande de lecture au SAN. Les données sont lues et transférées en RAM de mon serveur, puis c'est transféré en RAM et écrit de la RAM vers le SAN. Ici en fait j'ai un usage de mon serveur qui est assez lourd, puisqu'en fait c'est lui qui va faire les opérations. Dans le résultat ici, dans le modèle traditionnel, je vais utiliser la RAM et le CPU de mon serveur et je vais augmenter le trafic. Le modèle ODX, l'offload data transfer, ici c'est de faire en sorte en fait de décharger la tâche de copie à la baie de stockage. Ici mon serveur va faire une demande de lecture, sauf que cette fois-ci en fait ici le SAN va lui envoyer un jeton. Le serveur fait une demande d'écriture en utilisant ce jeton. Donc ma baie de stockage va utiliser ce jeton pour aller écrire sur la deuxième baie de stockage. Intérêt, c'est qu'ici on va exploiter en fait le lien entre baies de stockage pour faire la copie, qui n'a rien à voir avec les liens que je pourrais avoir mon serveur avec la baie de stockage. Ce qui va avoir une incidence également ici sur la réduction d'utilisation en fait de mon serveur au niveau RAM et CPU. Par contre, pour mettre en place ce composant, la baie de stockage doit supporter l'ODX bien entendu. Schématiquement, le support de l'ODX. Ici, j'ai mon serveur qui envoie la baie de stockage, en fait, on vous dit un déchargement de lecture, en fait, qui va demander à lire de l'information. On fournit un jeton, le jeton est fourni à l'autre serveur, en fait, et la baie de stockage va s'occuper du transfert. C'est-à-dire qu'ici, il n'y a aucun transfert qui va être initié directement par le serveur. Les baies de stockage vont s'occuper directement de faire ces copies. Ces différents composants. Comment peut-on mettre en place tous ces éléments-là? Pour mettre en place tous ces éléments-là, en fait, ici, comment mettre en place l'espace de stockage, le storage space? Comment active-t-on la duplication? Comment crée-t-on une cible ISCSI et connecte-t-on une cible ISCSI? Différents composants. Alors, pour créer mon espace de stockage, ici, ce que je vais utiliser, en fait, j'ai un serveur qui s'appelle MVA Stock. Sur ce serveur, ici, pour bien voir ce que nous avons dessus, nous avons ici, au niveau de notre disque dur, nous avons différents disques durs qui sont fournis. Donc tous ces disques durs, avec différentes tailles, qui sont proposés. Moi, ce que j'aimerais ici, c'est j'aimerais pouvoir donner l'accès à mes personnes, à mes utilisateurs, mais sans être amené à créer des partitions sur chacun des disques durs, et ainsi de suite. J'aimerais pouvoir dire, les deux premiers disques, c'est un premier pool de stockage, les deux autres disques, c'est un autre pool de stockage. Bah, pour ça, ici, je vais gérer mon espace de stockage, mon storage space. Alors, je ne vais pas le faire depuis mon serveur MVA Stock, je vais le faire depuis mon serveur physique, à partir de mon gestionnaire de serveur. Si je veux gérer tout ce qui est stockage à partir de mon serveur, ici, j'ai le service de fichiers et de stockage. Dans le service de fichiers, je trouve les différents serveurs que j'ai ajoutés. Donc, que j'ajoute ici hein, grâce à ajouter d'autres serveurs à gérer, tout simplement. Sur ces serveurs, ici, je vois tous les volumes disponibles, tous les disques disponibles. Si je prends mon serveur MVA Stock, ici, il me dit qu'il a toute une série de disques. Donc, 227, 280 et de 10 gigas, éventuellement. Et je vois apparaître ici la notion de pool de stockage. Pool de stockage. Donc pour l'instant, je n'ai aucun pool de stockage qui existe, effectivement. J'aimerais avoir... Voilà, ce qui me manquait. En fait, ici, j'ai mon espace de stockage. Je vois apparaître en fait mes serveurs qui ont des disques durs qui ne sont pas gérés à l'heure actuelle. Qui ne sont pas gérés. Ces disques durs qui ne sont pas gérés sont dans un pool de stockage que j'appelle le primordial, avec les disques disponibles. Si je prends primordial MVA stock, je vois apparaître en fait tous mes disques durs. Sur ces disques durs ici, hop, nous aurons après coup un type de média qui apparaîtra, qui est paramétré sur mon serveur. J'ai primordial en fait sur DC, j'ai mon composant. Je veux créer mon espace de stockage. Comment faire? Bah sur mon primordial, bouton droit, je peux générer un nouveau pool de stockage. Pool de stockage. Pool de stockage MVA. MVA stock, suivant. Quand je crée mon pool de stockage ici, quel est le type? Quels sont les disques durs que je vais utiliser? Ici, soit je les prends tous, soit ici, je vais en prendre 3 pour l'instant. J'ai mes différents disques. Suivant, créer. Je viens de créer un pool de stockage. Hop. Ce qui a pour effet de créer ma structure ici. Mes trois disques que j'ai ici, si je reviens au niveau du disque sur mon serveur, mes disques ont disparu. Ces disques ont disparu parce que désormais ces disques sont gérés par le pool de stockage. Donc pour qu'ils réapparaissent, à moi après coup, de créer en fait mes disques durs virtuels. Ici. J'ai un pool de stockage équipé de trois disques durs. J'ai la possibilité, pourquoi pas, d'ajouter un autre disque physique après coup. Donc je vais pouvoir comme ça en fait, hein, rajouter au fur et à mesure de l'espace de stockage. Ce disque qui est ici, mon pool de stockage, nativement n'est pas exploitable. En plus, c'est même plus visible. C'est-à-dire qu'ici, si je viens sur mon serveur, j'ai plus rien. C'est-à-dire que pour lui, en fait, il y a des disques connectés, mais ils ne sont pas exploitables. Si je veux pouvoir les exploiter ici, ce que je vais être amené à faire, c'est de ces pools de stockage, je vais créer un disque dur virtuel. Le disque dur virtuel, c'est ce qui sera réellement exploitable. Ce qu'après coup, je pourrais découper en partitions éventuellement. Donc ici, pour créer un nouveau disque virtuel, soit sur le pool de stockage, je fais un nouveau disque virtuel, soit éventuellement depuis disque virtuel, je crée un disque virtuel. La création de mon disque virtuel, suivant. Sur quel pouce de stockage vas-tu créer le disque virtuel? Suivant. Disque virtuel A. Ce disque virtuel ici, je ne peux pas créer de niveau de storage sharing. Storage sharing, en fait, impose d'avoir du SSD. C'est-à-dire qu'il faudrait ici, en fait, que sur mes disques, on a une notion en fait de disques normaux et disques SSD. Si le système ne détecte pas, c'est quelque chose qui peut se mettre en place en fait via du PowerShell, grâce à une commande qui s'appelle set-physical-disk. Je ne vais pas le mettre en place ici, je n'ai pas besoin. Suivant, quelle sera la disposition qu'on va utiliser? Disposition en fait au niveau des données de duplication. Niveau simple, en miroir ou avec parité. Ici. Je vais prendre un niveau simple pour l'instant. Suivant. Quand je fais un niveau simple, quel sera le type de mise en service? Est-ce que je fais un approvisionnement fin? ou est-ce que je fais un approvisionnement fixe? L'approvisionnement fin, j'ai une taille de 378 gigas. Si je pourrais très bien dire ici, je fais un approvisionnement fin, je fais trois disques virtuels avec approvisionnement fin de 200 gigas. C'est-à-dire que je provisionne trois disques de 200 gigas, sachant que je n'ai que 300 gigas disponibles. Ici, je vais faire du provisionnement fin. Suivant, quelle sera la taille? Ben ici, par exemple, la taille sera 200 gigas. Suivant, je crée. J'ai créé mon élément, mon nouveau disque dur. Il me propose éventuellement, à la fin de la création du disque dur, de créer un volume. Soit je le crée ici, soit je pourrais le créer après coup. J'irai le créer après coup. Le fait d'avoir créé mon disque dur ici, donc il me dit qu'il y a 1,5 giga d'alloué, dans les disques de mon serveur MVA, je vois apparaître mon disque de 200 gigas, qui provient ici de mon espace de stockage. Ce disque ici, il apparaît également ici. Si je veux réellement le rendre disponible désormais, je vais pouvoir en fait le faire, sans aucun problème. Donc je peux le gérer en fait à distance, je peux le gérer directement d'ici également, c'est pas un problème. Donc j'ai mon pool de stockage, et sur ce pool de stockage, ici quand je fais bouton droit, on voit que j'ai mon disque virtuel, je peux détacher le disque virtuel, je peux le supprimer, je peux l'étendre. J'ai associé 200 gigas, j'ai pas mis assez, je veux 250. Donc directement en fait le système agrandit mon composant. Maintenant ici, j'ai mon pool de stockage avec mes éléments. Je veux dans ce pool de stockage rajouter des disques durs. Bouton droit, j'ajoute un disque physique. Et je peux tous les ajouter. Donc l'intérêt d'un pool de stockage, c'est quoi? C'est vous avez créé créé un seul disque qui faisait en fait 200 gigas, vous n'avez plus de place. Vous mettez un nouveau disque physique et vous voulez qu'il soit utilisé automatiquement dans l'espace de stockage, on va pouvoir rajouter assez rapidement. En 3 secondes, on voit que ça se passe. Ici. J'ai mon pool de stockage, très bien. Sur ce pool de stockage qui m'intéresserait, pourquoi pas, ici, c'est de créer un disque et éventuellement d'activer la déduplication de données. Parce que là, c'est bien de mettre ça en place, mais nativement, personne ne peut s'en servir. Donc si je veux créer un disque, je vais créer un volume suivant. Sur MVA stock, sur le disque en fait de 251 Go qui n'est pas encore partitionné. Suivant, quelle sera la taille du volume? 150 Go. Ce disque, je vais lui mettre la lettre D sur le serveur distant. Suivant, j'ai la possibilité de choisir le format de fichier, la taille d'unité d'allocation, le nom du volume. Est-ce qu'on fait des noms de fichiers courts? Pourquoi pas? Directement ici, quand je mets l'assistant nouveau volume, il me propose éventuellement d'activer la déduplication de données. Ici. Encore faut-il après également que la déduplication soit activée sur mon serveur. Donc pour l'instant, je ne vais pas l'activer. On verra après coup comment on fait pour l'activer. Suivant. J'ai mon disque. Je crée. Donc je vais me retrouver ici. On va attendre que tout se mette en place. Terminé. Si je prends mon serveur distant, je vois apparaître une lettre D. Cette lettre D qui va me permettre de travailler. Donc ici, très bien. Si je prends les volumes, volume sur MVA stock, j'ai bien ma lettre D. Ici, on voit que la lettre D provient en fait de l'espace de stockage. Ici. Donc j'ai créé mon pool de stockage, j'ai ma lettre qui apparaît, sachant que la lettre D, moi, physiquement, quand je suis devant la machine, je ne sais pas que cette lettre D provient de 4, 5, 10 disques durs physiques. Par contre, l'avantage, c'est que puisque j'utilise plusieurs disques physiques, je vais optimiser le temps d'écriture et de lecture en particulier. Après, je peux optimiser également la tolérance aux pannes grâce à du miroir en particulier. J'ai mon pool de stockage, j'ai mis ma machine, j'ai mis mon composant. Ce que j'aimerais ici, c'est mettre en place sur cet élément-là, de la déduplication de données. J'aimerais sur ce volume activer la déduplication. Pour ça, quand je fais bouton droit sur le volume, je peux configurer la déduplication. Sur C, je ne peux pas dédupliquer les données, puisqu'ici c'est le système, donc on ne peut pas dédupliquer lui-même. Attention, hein, si vous mettez en place des duplications, par exemple, vous êtes sur un serveur, parce que vous faites en fait de la bidouille sur vos systèmes, éventuellement, vous avez plusieurs OS côte à côte, la duplication de données doit être supportée par tous les OS qui vont démarrer sur votre machine. On a un accès local. Sur cette machine, je vais activer la duplication, je configure la duplication, et ici, je vais dire tout simplement, je vais faire un serveur de fichiers à usage général. Ici. J'ai la déduplication, je peux extruire des types de fichiers personnalisés, je peux extruire des dossiers dans la déduplication. Je peux choisir quand aura lieu la déduplication. Nous avons une déduplication en arrière-plan automatiquement, qui se fait suivant les tâches planifiées. On peut activer une optimisation de débit et on peut créer une deuxième planification d'optimisation de débit. Faire en sorte que ça se fasse en arrière-plan plus ou moins rapidement. OK. J'ai ma déduplication qui est mise en place. Alors cette déduplication, bien entendu, je vais mettre en place. Nativement, elle ne fonctionne pas pour l'instant. Même si je mets des données, elles ne seront pas dédupliquées. Alors par contre, ici, la déduplication fonctionne parce que j'avais activé la déduplication sur la machine. Si je viens sur mon serveur DC, je vois par exemple que la déduplication n'existe pas. Ce qu'il faut, c'est que la déduplication, il faut l'activer en amont avant de demander à dédupliquer. Activer la déduplication. Ça se fait depuis mon gestionnaire de serveur, dans l'ajout de rôle et de fonctionnalité. Suivant, je vais faire une installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité. Je vais prendre mon contrôleur domaine. Et ici, la déduplication dépend du service de fichier de stockage. Et dans le service de fichier de stockage, nous avons ici la déduplication des données. Le fait de cocher cette case, je rajoute le service de rôle déduplication de données, puis après coup, je vais pouvoir activer cette déduplication pour gagner mon espace. J'ai créé des partitions, très bien, sur mon deuxième serveur, StockMVA. Le problème, c'est que ces partitions, le but du jeu, c'est que c'est ma baie de stockage, c'est lui qui gère ma baie de stockage, et j'aimerais que ces disques soient exploitables par mes serveurs Hyper-V pour stocker des machines virtuelles. Alors oui, ici je suis sur que la machine virtuelle, mais schématiquement, j'aimerais faire en sorte que mon serveur physique puisse attaquer les disques durs en fait mis au sein du serveur MVA stock. Alors ici nous sommes sur un Hyper-V 2012 R2. On a la possibilité au niveau des machines virtuelles de les stocker sur des dossiers partagés. Si ce dossier partagé est en SMB3, donc Windows 2012, Windows 2012 R2. Oui, mais je suis sur un serveur, en fait, moi, Windows 2008 R2, et j'aimerais pouvoir accéder à cette baie de stockage. Comment faire ? Ben pour ça, sur mon serveur MVA Stock, nous devons activer, en fait, le serveur cible ISCSI. Le serveur cible ISCSI, l'activation, c'est le même principe que n'importe quel autre rôle. Je prends dans mes rôles l'installation basée sur mes serveurs, suivant. Et dans le service de fichiers de stockage, dans le service de fichiers ISCSI, je trouve ici mon serveur cible ISCSI. Tout simplement. Sur mon serveur physique qui n'y est pas, je l'ai mis en place déjà au sein en fait de mon serveur MVA Stock. Je veux pour ce serveur ici gérer des cibles ISCSI. Ben, je vais dans ISCSI, je vais créer un disque virtuel. Quand je crée un disque virtuel, ici j'ai 3 serveurs dans ma console. Si j'avais 50 serveurs et plusieurs éventuellement avec le système ISCSI mis en place, il me les proposera tous. MVA Stock, sur quel disque veux-tu stocker la LUN ISCSI ? Donc il me propose C ou D, ce que je viens de créer en fait précédemment. Sur D, le système va me créer automatiquement un dossier qui s'appellera ISCSI Virtual Disk. Très bien. Suivant. Comment s'appellera en fait ton disque? Mon disque va s'appeler LUN-A. LUN-A. Suivant. Quelle sera la taille? La taille de cette LUN sera de 50 Go. 50 Go en taille fixe, avec effacement des disques durs au moment de l'allocation. Taille dynamique, ou éventuellement différenciation. Différenciation, ça peut être utile pour s'appuyer sur un disque parent qui a déjà toute une série de données. Taille dynamique, suivant. Ma cible ISCSI ici, ma LUN sera connectée à quelle cible? Je n'ai pas de cible, donc je vais en créer une nouvelle. Suivant. Nouvelle cible ISCSI. Démo MVA. Suivant. Qui pourrait accéder? Je vais spécifier quelles sont les machines en fait qui auront accès à cette cible ISCSI. Je vais ajouter. Soit je peux ajouter ici une requête d'ID, donc un IQN. Soit je peux ajouter des choses qui existent déjà sur le serveur cible, qui sont dans le cache initiateur. Soit je peux entrer une valeur en fonction d'un nom qualifié, d'un nom DNS, d'une adresse IP, d'une adresse MAC. Ici, je vais prendre des éléments que j'ai déjà mis en place. Je vais prendre mon serveur 2012 R2. OK. Je veux éventuellement que mon compte Orban puisse y accéder. J'y ajoute aussi. J'ai plusieurs serveurs au niveau de mon cluster Hyper-V, je veux qu'ils y accèdent. Bah, tous mes serveurs doivent avoir l'accès à cette bête de stockage. Je peux activer des authentifications supplémentaires en chap ou en chap inversé. Suivant, je crée. J'ai créé ma cible ISCSI. J'en ai créé qu'une seule, ça, j'en ai largement, c'est largement suffisant pour moi. Hein. Sur cette cible ISCSI, je vois la cible et je vois en particulier qu'à l'heure actuelle, personne n'est connecté. Je veux me connecter à cette cible ISCSI depuis mon serveur physique. Depuis mon serveur physique, ici, je vais utiliser ISCSI. Je vais utiliser l'initiateur ISCSI. L'initiateur ISCSI qui est fourni nativement dans Windows, en fait, aussi bien client que serveur. Je vais demander à découvrir un portail. Mon portail s'appelle MVA stock. MVA-stock. Sur le port 3260, OK. Je suis connecté. Je vois directement ici les cibles disponibles. La cible que j'ai créée, qui fait 50 gigas. Je me connecte à cette cible. Alors avant de me connecter, allons voir ce qui existe en local sur mon serveur. J'ai 3 disques en local sur mon serveur. Je m'y connecte. OK. Je me retrouve désormais avec mon quatrième disque dur. Ce quatrième disque dur ici, en fait, je vais attaquer la machine virtuelle. Mais en fait ici, je vais créer une cible ISCSI. Et pour moi, en fait, serveur, il est considéré comme disque local. Je peux, à partir de maintenant, ce disque, le paramétrer, le formater pour que ça puisse fonctionner. Cette cible ISCSI, en fait, s'appuyant sur le provider SMIS, est exploitable, en fait, depuis n'importe quel système pour travailler. C'est-à-dire que j'ai un serveur, en fait, ici. Grâce aux espaces de stockage, je vais pouvoir gérer toutes mes bêtes de stockage. Toutes mes bêtes de stockage, sachant que tout ce qui est redondance, tout ce qui est tolérance, c'est moi qui dois les gérer grâce aux espaces de stockage. Je les découpe en disques virtuels. Et dedans, je mets une cible ISCSI. Ce qui me permettra après coup d'avoir des LUN, on va dire, directement gérés. Donc ici, grâce à tous ces composants, nous retrouvons en fait toutes les possibilités qu'on va rencontrer dans la gestion du stockage sur un Windows 2012 R2. Après, en fait, ici, cette gestion de stockage dans un 2012 R2, bah, moi, va m'être utile éventuellement quand je serai amené à faire de la virtualisation avec le rôle Hyper-V.